On s'en va rejoindre quelqu'un qu'on a déjà reçu à Studio 101 ici à CJSO. Fuseau, salut, comment vas-tu?
Salut Luc, ça va bien toi?
Ça va très très bien. Nouvel album qui est paru dans un temps un peu bizarre, une semaine avant le début des répercussions ici au Québec. Est-ce que tu as l'impression qu'il arrive quand même à un bon moment ce disque-là?
Ah ben, au moins on a eu la chance de faire un lancement d'album en bonne et due forme. Donc je plains ceux qui avaient une sortie d'album durant la crise. Mais c'est sûr que côté promotion, c'est un peu plus compliqué dans ce temps-là. Mais bon, on garde espoir.
Un deuxième album, évidemment, c'est le moment où on se définit encore plus comme artiste. Est-ce qu'il y avait une certaine pression dans la conception de ce disque-là, de savoir ce qu'on ne veut plus faire du premier, ce qu'on a envie de changer?
Oui, oui, oui. En fait, je pense que la pression, c'est moi qui me la mettais tout seul. Et ça a été vraiment avant l'écriture, avant vraiment de me plonger dans ce deuxième album. C'est sûr que j'avais la pression de j'aimerais que ça pogne, j'aimerais que les gens comprennent mon message, j'ai pas envie de trop changer non plus. Puis finalement, quand on a commencé à créer, vraiment, ça a été de façon naturelle. Donc, je suis vraiment content du résultat. Je suis resté authentique sur toute la ligne. J'espère que les gens pourront l'entendre.
Est-ce qu'il y avait déjà des choses que tu voulais plus pour la suite?
C'est sûr, il y avait quelques petits côtés de la musique que je préférais garder un peu plus à ma sauce. Donc, sur ce deuxième album, on va entendre un peu plus d'éléments organiques, comme des percussions. Ça, c'est sûr que ça me fait chaud au cœur qu'on ait pu en mettre autant. Puis après, c'est sûr qu'on voulait faire à la base un album franco. Donc, on s'est vraiment concentré sur le franco. On a mis deux petites chansons en anglais en bonus, mais sinon, c'était vraiment le but était de le faire franco le plus possible.
Est-ce que c'est plus difficile d'aller vers cette zone-là? Parce qu'on dit souvent qu'en français, les mots sont plus précis, il y a plus de possibilités, il y a plus d'images dans les mots. Est-ce que c'est difficile?
Oui. Plus difficile, je sais pas, mais c'est très différent, l'écriture entre l'anglais et le français. Mais je me suis vraiment bien amusé. Donc, c'est pas, non, nécessairement pas plus difficile, mais c'est vrai que ça a été une petite adaptation. Les derniers temps, je composais beaucoup en anglais, donc ça a été un bel exercice.
Il y a une chanson qui s'appelle « Quand j'aurai mon voilier », qui est assez spéciale, parce que c'est une chanson qui n'est pas écrite par toi, mais qui est écrite par un membre de ta famille, et ça fait longtemps, là.
Oui, exactement. C'est ma grand-mère qui l'a écrite en 1951, quand elle avait 17 ans. Et ça a été, elle m'a passé le flambeau par le code génétique, je pense. Elle a été vraiment très contente que je puisse la reprendre. Cette chanson-là, nous, on l'entendait depuis moi et mes frères, depuis qu'on était tout jeunes. Elle nous la jouait soit à la guitare, soit au piano quand on allait chez eux dans le sud-ouest de la France. Donc, non, ça a été un grand honneur pour moi de pouvoir la reprendre. Au début, je voulais vraiment la modifier, essayer de la moderniser. Puis finalement, je me suis dit que la chanson était parfaite comme elle était, donc j'ai été vraiment le plus simpliste possible dans cette reprise-là.
À quel moment tu t'es dit que tu pourrais l'enregistrer, cette chanson-là?
Ah, ça me trotte dans la tête depuis longtemps, puis je pense que c'était un beau cadeau à faire à ma grand-mère, de lui montrer que justement son héritage continue, donc j'étais content de le faire, mais ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. En fait, je pense que même au premier album, j'avais idée de la faire, mais justement par envie de la moderniser, j'avais jamais été capable de trouver la bonne façon de la faire. Donc, on l'avait mis sur la glace, puis sur le deuxième album, ça a été vraiment de façon naturelle. Donc, ouais, je suis content.
Et il y a une chanson pour ta mère sur l'album, non?
Il y a une chanson pour ma mère, oui, exact.
Comment elle est venue, cette chanson-là, qui s'appelle « Un sourire sincère »?
Un sourire sincère, ça a été... ma mère, on dirait que moi, mes parents sont repartis en France depuis quelques années, donc j'ai un contact un peu plus léger avec eux qu'à l'habitude. Donc c'est sûr qu'elle me manque énormément, puis elle en a tellement fait pour moi, donc je voulais pouvoir la remercier. Je pense qu'en plus d'être, comme souvent toutes les mères au monde, notre première fan, elle aime vraiment beaucoup ce que je fais, donc je suis content de pouvoir lui remettre, lui lancer des fleurs par la musique. Donc voilà.
Comment elle a réagi?
Elle a réagi très bien. Là, à date, ma grand-mère a pleuré pour la chanson, ma mère a pleuré pour la sienne. mission réussie pour moi pour l'instant.
Est-ce que tu leur as chanté? Évidemment, c'est compliqué avec les distances, mais as-tu eu le temps de leur chanter en personne?
Je les ai pas chantés en personne, okay. Encore. Mais ma grand-mère m'a déjà entendu chanter une reprise. Et d'ailleurs, un petit fait Cocasse, la reprise de ma grand-mère, la première fois qu'on l'a fait, c'était au festival à Sorel. Donc, c'est vous les premiers qui l'avez entendu.
OK, wow. Et album que tu as travaillé avec William Gabouri.
Oui, Gabouri, qui on travaille ensemble depuis le début. En fond, c'est lui le premier qui m'a tendu la main vers les studios d'enregistrement. Donc, on a continué à faire ça en famille. Il y a une chanson, en fait, il y a deux chansons sur l'album qui a été faite avec Dimitri Lebel. Et sinon, ça a été vraiment le reste de l'album au studio Tangerine à Montréal.
Comment il est arrivé, Dimitri, dans le projet?
Je pense que c'était mon envie de justement faire un deuxième album, de voir comment, tu sais, les possibilités de travailler avec d'autres gens, voir comment ça se passe ailleurs pour au moins être vraiment, prendre un choix conscient et éclairci en me disant « je veux aller travailler avec William », ben, je voulais, tu sais, voir un petit peu comment ça se passe justement dans les autres univers de musique, dans les autres ambiances. Puis finalement, j'adore Dimitri aussi, sûrement qu'on va retravailler ensemble. Mais on a continué avec William pour le reste de l'album.
Qu'est-ce qu'ils apportent, ces gars-là, à ton son, à ton univers à chaque fois?
Mon Dieu, je pense qu'il... moi, je suis assez... comment dire? Moi, je parle en termes d'émotion. Eux, ils parlent en termes de gamme. Donc,
ouais.
J'arrive à se comprendre un petit peu, mais eux, ils mettent un petit peu plus de connaissances dans ce que je veux, étant donné que j'ai pas vraiment de théorie en musique, en tout cas en gamme et en guitare. Donc, moi, j'arrive avec des idées. Eux, ils trouvent des mots là-dessus. Donc, ça me permet de mettre vraiment des idées, de concrétiser des idées, les mettre sur table. Donc, je suis bien content de pouvoir travailler avec eux. On a vraiment nos forces, chacun, dans cette équipe-là.
Mais est-ce qu'il y a des chansons qui ont amené complètement ailleurs, des idées que tu avais, toi, mais qu'eux, ils ont bousculé un peu tout ça?
Oui, c'est sûr. Ben, William Gabouri l'a fait beaucoup dans le premier album. Puis là, mon deuxième album, c'était un peu ma crise identitaire, ma crise d'adolescence de « je veux faire à ma façon ». Donc, il y a eu un peu moins le pouvoir de le faire sur cet album-là. Mais il m'apportait tout le temps des bonnes idées, puis c'était vraiment en équipe. Mais il a pas réussi à chambouler une chanson de A à Z. Là. Vraiment, moi, j'étais très têtu sur cet album-là.
Pourquoi? Pourquoi c'était important pour toi, sur ce disque-là, de tenir ton bout en quelque part?
Ben, parce que je me dis, tant qu'à faire de la musique, je dois faire la musique que je veux faire.
Ouais.
C'est la plus belle paye qu'on peut pas avoir comme musicien, c'est que les gens réagissent à ce qu'on fait du fond de notre cœur. Puis tant qu'à faire la musique de quelqu'un d'autre, je veux dire, il y a plein d'autres métiers qui semblent aussi très agréables à faire, donc je vois pas pourquoi je prioriserais ça. La musique, je le fais pas pour la célébrité ou quoi que ce soit, je le fais vraiment pour faire ma musique et la liberté de partager mon message comme je le ressens. Donc c'est ça, je pense que c'était très important pour moi de justement sur ce deuxième album-là, avec la maturité que j'ai eue dans les trois dernières années, de vraiment mettre mon point sur la table et dire j'aimerais ça que ça sonne vraiment comme moi. C'est sûr qu'on a eu des compromis, on travaille en équipe, donc il y a des consensus qui se donnent, mais j'ai vraiment été beaucoup plus actif dans la prise décisionnelle que sur le premier album.
Évidemment, tu as de la famille en France, tu l'as dit tout à l'heure, et là, tu devais être en France, non, à ce moment-ci?
Oui, en ce moment, je devrais être en France, je devrais être à Paris en train de faire une petite tournée, me promener en trottinette électrique dans les rues parisiennes. Mais non, c'est reporté. J'espère que ce sera très bientôt. On verra. Pour l'instant, on n'a pas de détails à ce niveau-là, mais on croise les doigts.
Est-ce que tu avais ce désir-là de faire voyager ta musique? Évidemment, toi, tu es un passionné de voyage. C'est une musique qui amène à voyager aussi. Avec ce soin-là que ça se promène partout sur la planète?
Ah, moi, c'est un cadeau plus que tout au monde, que voyager avec la musique, faire voyager les gens aussi avec la musique, et surtout la France qui est mon pays natal, de pouvoir revenir voir ma famille, mais dans un cadre professionnel, c'est pour moi, ça me donne un petit sentiment de réussite, de faire « Hey, je viens vous revoir, mais c'est pour le travail. » Je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve ça cool aussi l'accueil français avec ma musique. Dans les quelques pays européens, ils ont entendu ma chanson, donc je suis vraiment très content de voir que ça voyage. Je suis sur un nuage.
C'est quoi le feeling quand on reçoit son deuxième album? Parce qu'évidemment, le premier, c'est une espèce de rêve qui se réalise. On l'a dans nos mains, il y a quelque chose d'émouvant. Ça va vivre en dehors de nous. Est-ce que le deuxième, c'est aussi émouvant?
Je pense que oui. On change quand même dans le processus. Nos attentes sont différentes. nous envient aussi, mais la joie de recevoir un album dans nos mains, quelque chose qu'on a créé, quelque chose qu'on a pris du temps à créer, qu'on a douté vraiment beaucoup. Une fois que le produit est fini, il y a un certain soulagement de OK, on y a plus place à changement. L'album est sorti, ça va être ça. Donc maintenant, on est juste dans l'appréciation. Donc oui, c'est assez émouvant. C'est quand même un long processus. Donc ouais, j'étais vraiment content de le recevoir dans mes mains la première fois.
Comment s'est passée la création de ce disque-là? Est-ce que tu as besoin d'un moment où tu arrêtes tout pour créer ou ça se passe vraiment à travers toutes les autres sphères, à travers les spectacles, à travers tout ça?
Pour ce qui est de la phase de l'écriture et de la composition, je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai besoin d'expérience pour animer
l'inspiration.
Mon inspiration, exact. Donc je le fais avec un rythme de vie normal, mais c'est sûr que quand, comme là pour le deuxième album, on est tombé en phase de production de l'album, donc de réalisation en studio, là j'ai vraiment mis sur la glace les spectacles pour vraiment me concentrer sur le studio, puis on faisait ça à temps plein, donc c'était vraiment le fun de vraiment se mettre que la tête à ça, puis je pense que c'est quelque chose que j'aime sûrement pour le troisième album aussi, ça va être vraiment un moment que de studio, vraiment se mettre dans sa créativité complète, puis focusser là-dessus.
Mais quand on focus là-dessus, est-ce que la difficulté, c'est de le laisser aller à un moment donné, de dire « OK, c'est bon, je lâche prise ».
Ah, absolument.
Il sera comme
moi,
ça.
Puis, William Gaboury, là, on s'en est envoyé des courriels, là, de « OK, on change ça, OK, on change ça », puis des allers-retours à Montréal pour aller voir, puis tu sais, des fois, ça devient très... parce que les deux, on est perfectionnistes, mais on a des façons de faire différentes, donc... C'est arrivé plus d'une fois de passer des heures sur un son de bass drum là, dans une chanson alors qu'on l'entend pas tellement. Donc, ouais, c'est des fois, on peut se prendre la tête un peu pour rien.
Il y a la thématique de l'espoir qui revient sur ce disque-là. Est-ce que ça vient tout seul, une thématique comme ça? Est-ce que tu choisis les chansons après ça en disant « Bon, mais j'en ai deux, trois qui parlent de ce thème-là, ça va bien ensemble? »
Non, oui, c'est vraiment venu tout seul. Cet album-là était vraiment... composé dans l'authenticité. Il n'y a pas une chanson que je me suis dit « OK, il faut que je fasse une chanson plus heureuse ou il faut que je fasse quelque chose de plus triste. » C'est sûr qu'il y a des chansons qu'on a choisi de ne pas mettre sur l'album parce qu'on en avait qu'on préférait versus d'autres. Mais sinon, chaque chanson a été écrite par l'inspiration du moment. Donc, ouais, ça n'a pas été forcé.
T'as fait un clip pour Tornade, évidemment. C'était pas évident de faire un clip à ce moment-ci parce qu'on peut pas réunir d'équipe technique et faire quelque chose.
Ouais.
Mais t'es allé avec des gens partout sur la planète et ça donne un résultat fascinant. Elle est venue comment, l'idée?
Ben, l'idée, c'était de voir, tu sais, on est beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci et je voyais à quel point, malgré l'isolement, les gens deviennent de plus en plus connectés. Et vraiment, il y a un sentiment de communauté qui grandit. Les gens sont vraiment plus à l'écoute l'un de l'autre que dans le train-train quotidien de courir et puis de marcher vite puis penser à soi, comment qu'on est. Là, on sent vraiment que les gens ont un besoin justement de connexion par cette privation-là. Donc, c'est ça, je me suis dit, tu sais, on voit beaucoup des lives sur Instagram, les gens qui veulent justement donner de leur temps, se faire voir, mais aussi entendre les autres. Donc, l'idée m'est venue de ça, puis les gens ont vraiment bien réagi à la proposition de faire partie du clip. Donc, on a des gens un peu partout à travers le monde. On a une famille à Tahiti, la belle maman avec la fleur sur le bord de l'oreille. Moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, là. J'étais vraiment content. Du monde en Ouganda, en Chine, un peu partout. Donc, ouais, je suis vraiment content du résultat. Puis c'est vraiment, on voulait que ça soit homemade, qu'on montre vraiment la réalité des gens dans leur confinement, montrer qu'on est vraiment tous et toutes dans le même bateau en ce moment et que le sentiment de communauté ne pourrait pas être plus grand qu'en ce moment.
Mais comment vous les avez trouvés, ces gens-là? Est-ce que c'est des gens que tu connaissais déjà?
Ça a été par contact. Le réalisateur du vidéoclip, Mike Raymond, qui est aussi un bon ami à moi, a été un grand voyageur, donc il y avait quand même des amis un petit peu partout. Puis après, ça a été du bouche à oreille, ça a été sur Instagram. J'ai fait une petite demande, puis il y avait des gens qui venaient me voir, qui me disaient « Ah, moi, j'ai une amie en Belgique. Ah, moi, j'ai une amie en Russie. » Donc là, on a réussi à se faire un petit réseau. Et ouais, voilà.
Et vous avez reçu 40 clips?
Ouais, on en a reçu un petit peu plus, mais là, après, ça devenait trop court à mettre tout le monde. Donc, ouais, on a comptabilisé les meilleurs clips.
quand tu as vu le résultat final, tu as réagi quand même, parce que c'est émouvant quand même de voir des gens partout sur la planète qui chantent ta chanson.
À la base, j'ai vu les clips rentrer un à un. Donc, c'était des gens, justement, là, des gens du Ouganda qui m'envoient un vidéo d'eux qui sont en train de danser avec ma chanson. Puis ça fait tellement chaud au cœur de voir que même s'ils ne l'auraient pas écouté en temps normal ou c'est vraiment dans un contexte précis, mais les voir avoir un sourire sur sa chanson, les voir danser, que ça a mis un petit peu de soleil dans leur journée, moi c'est un rêve pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Fait qu'en plus, les voir coller un à un, montrer justement cette connexion entre tout le monde, je pense que j'ai eu les yeux un peu humides.
Évidemment, quand on fait de la scène et que les gens nous choisissent, qu'ils décident d'acheter un billet pour venir nous voir en spectacle, c'est déjà un privilège. As-tu l'impression qu'après la crise, quand les gens vont décider qu'un des spectacles qu'ils vont voir, c'est le tien, le privilège sera décuplé?
C'est une très bonne question. En fait, j'ai encore un peu de difficulté à voir comment l'après-crise va se passer. Est-ce que, justement, les gens vont avoir une envie très forte d'aller se divertir ou justement moins. Mais bref, moi, c'est sûr que je vais être très, très content de pouvoir les revoir. Là, j'ai très hâte de pouvoir recommencer. C'est sûr que ouais, monter en spectacle, monter sur scène, puis voir des gens qui se déplacent pour notre musique, c'est vraiment un beau cadeau, puis ça le sera tout le temps.
Et là, j'imagine que le danger, quand l'horaire se libère, c'est d'écrire un troisième album.
Moi, tu vois, j'ai ma créativité, là, après le deuxième album, je suis tombé vraiment dans ma créativité très fort. Puis c'est mon gérant, Guy Richot, qui a produit mon deuxième album et qui va produire les prochains. Et je lui ai dit, je pense que c'est le lendemain du lancement de l'album, j'ai dit, moi, je suis prêt à rentrer en studio pour le troisième. C'est quand tu veux. Puis là, il m'a dit, regarde, on vient de lancer un album, on va commencer par le promouvoir un petit peu, on verra après. Fait qu'il m'a mis un peu sur la glace. Mais c'est sûr qu'avec tout ce temps libre, j'aime ça pouvoir gratter ma guitare, trouver des nouvelles idées. On s'était dit que le prochain album allait être un projet anglo à 100%. Peut-être qu'on va tricher, on va mettre une ou deux chansons en français. Mais c'est le fun de pouvoir changer un peu de dynamique. Fait que ouais, j'ai très hâte de faire le troisième album.
J'ai l'impression que tu vas toujours un peu te promener là-dedans, anglo-franco. En même temps, ça permet d'avoir notre musique qui voyage vraiment partout là, quand on touche aux deux. Là.
Absolument. Puis en même temps, je pense que c'est une réalité qui est très québécoise de jongler entre le français et l'anglais. On s'adapte très bien entre les deux langues, donc pourquoi pas. C'est mon premier album, ça a été beaucoup d'anglais-français dans le même album. Puis on s'est dit pourquoi pas en faire un vraiment en français pour les gens qui préfèrent juste le français, en anglais, puis comme ça, on les sépare, mais on les garde quand même les deux.
Est-ce que là, donc, tu as déjà des textes d'écrits pour un prochain album?
Oui, j'ai plusieurs chansons d'écrites pour le prochain album, donc c'est pour ça que là, j'ai très hâte de pouvoir rentrer en studio, remettre ma créativité, puis retrouver des instruments, retrouver des façons de d'embellir la chanson, de remplir la chanson. Ouais, j'ai très, très hâte.
Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des chansons qui avaient été mises de côté sur l'album. Est-ce qu'elles pourraient revivre sur un autre disque ou dans ce temps-là, tu les sers dans tes tiroirs et on les voit plus jamais?
D'habitude, je suis comme ça. Moi, je suis un gars assez de feeling. Donc, une chanson qui devient vieille, souvent, je suis aussi quelqu'un de très, très spontané, très intense dans ma façon de vivre les choses. Donc, souvent, ce que j'écris deux mois après, ça n'a plus vraiment rapport avec la personne que je suis à ce moment-là. Donc, c'est rare que je vais chercher des chansons des Boulamites, mais pourquoi pas? On dit jamais. Peut-être.
Mais pourrais-tu aller rechercher des bouts de phrases, par exemple?
Ouais, c'est ça. Peut-être aller chercher des bouts de phrases ou des mélodies ou même des accords que j'ai choisis avec un texte qui me convenait peut-être moins. On peut tout le temps recycler, même en musique.
Oui. Et là, si les gens veulent te suivre, évidemment, c'est sur le web, tu es sur les réseaux sociaux.
Oui, on est très, très actifs sur Instagram, donc sur Fuso Music, FUSOMUSIC, sur Facebook, Fuso, et on a le site web fusomusic.com pour acheter l'album ou se le procurer sur les plateformes numériques.
Et est-ce que tu feras des performances, des spectacles en live Facebook éventuellement? Est-ce que c'est un projet?
Oui, on avait commencé les lives il y a quelques semaines avant que ça devienne surchargé sur les réseaux sociaux. Et puis, on avait fait un projet pour ramasser des sous pour les itinérants à Montréal, qui étaient quand même dans une situation assez critique,
oui, tout à fait.
Étant donné qu'ils n'avaient pas d'endroit pour le confinement. Donc, on a réussi à ramasser en deux lives avec des artistes invités, 500 $ pour les itinérants. Oh. Donc, ça a été remis à la mission Old Brewery à Montréal, sur Saint-Laurent. Et depuis, j'en ai pas trop fait parce que j'en ressentais pas le besoin du public qui est un peu surchargé en ce moment de divertissement avec tous ces gens qui se mettent en live constamment. Mais éventuellement, je pense que je vais reprendre un peu le flambeau, me dégourdir un peu puis aller faire quelques chansons sur Instagram.
Ben Fuseau, j'invite les gens à se procurer Danser dans la tornade. Merci d'avoir été là.
Ben, merci à toi, Luc.
Merci.